L'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous et bienvenue. L'antenne est à vous pour une heure. Nous attendons vos appels pour notre débat du jour dans la seconde partie de l'émission. Quel rôle doivent jouer les États-Unis au Sahel? Ils ont déjà indiqué leur volonté de se désengager, mais lors de sa tournée africaine ces derniers jours, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, n'a donné aucune garantie, aucune information supplémentaire non plus. Il a promis, en revanche, que les États-Unis feraient ce qu'il faut pour la sécurité au Sahel. Que veut dire faire ce qu'il faut? Qu'attendez-vous des États-Unis? Appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lancerons le débat dans une demi-heure maintenant. D'ici là, comme chaque jour, nous répondons à vos questions sur l'actualité. La première, ce matin, nous vient de Bukavu. Bonjour Alain.
Bonjour.
On vous écoute.
Caleb Moutonde, ex-chef de renseignement sous régime Joseph Kabila, a été interpellé, auditionné mercredi 12 février à Kinshasa. Que savons-nous de son motif d'interpellation? Sachez aussi qu'il est une figure importante sous Kabila. Cette interpellation peut-elle avoir une répercussion sur la coalition FCC-CACH?
Alors l'un de nos correspondants à Kinshasa, Patient Ligaudy, est en ligne pour vous répondre. Bonjour Patient.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
C'était un geste fort symbolique, cette interpellation de l'ancien chef des renseignements congolais. Pourquoi est-ce qu'il a été interrogé?
Ce que l'on sait à ce jour, il a passé plusieurs heures dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements et à tous ceux qu'il avait appelés déjà cet après-midi-là, il a affirmé soit qu'il était rendu de son propre gré, soit qu'il se trouvait à son domicile en train de préparer les obsèques de son beau-frère. À d'autres, il répondait que le rendez-vous avec son successeur avait été pris depuis longtemps. Quand on lui demande de quoi il a été question dans ses entretiens, il répond, je cite, c'est absurde de demander à un ancien patron de la CIA de quoi il a parlé avec ses anciens collègues. Fin de citation. Est-il que, d'après plusieurs sources, il a été interrogé notamment sur la détention d'un passeport diplomatique. Lui, il clame qu'il a le droit d'en posséder un, d'abord, de par le fait que c'est un ancien chef de service de renseignement, et d'autre part, par le fait qu'il exercerait des fonctions de conseiller politique de l'actuel Premier ministre. Toujours selon les mêmes sources, les questions tournent également sur ses récents voyages dans la sous-région.
Alors, Caleb Moutonde, c'est l'une des figures du régime de Joseph Kabila. Il a dirigé l'ANR, donc l'agence de renseignement, pendant 8 ans, jusqu'à l'entrée en fonction en fait du président Tshisekedi l'année dernière. Notre auditeur Alain avait une autre question sur les conséquences possibles de cette interpellation, les conséquences sur la coalition au pouvoir entre les mouvances de Félix Tshisekedi et celles de l'ancien président Kabila. Patient Ligaudy, si vous êtes avec nous, je vais vous demander juste de reprendre parce que la ligne n'était pas très bonne, donc on n'a pas pu entendre le début de votre réponse.
Bon, ce que je dis, c'est qu'on sait que le FCC de Joseph Kabila est très regardant par rapport aux éventuels amis qui touchent ou qui toucheraient ses principaux cadres. Emmanuel Chadari, candidat du camp Kabila à la présidentielle de 2018 et actuel secrétaire général de son parti, avait clairement promis que sa formation politique déstabiliserait le pays au cas où Albert Yuma, qui est un autre cadre du parti de l'ancien président, aurait des amis. Les cadres du FCC ne se cachent pas, ils mettent clairement en garde leurs alliés. Alors, la question aujourd'hui est de savoir si l'actuel pouvoir ira au bout de cette initiative. Est-ce que Kalev sera formellement mis en accusation, sachant par exemple que Kalev Moutonde sera également l'objet des nouvelles plaintes qui seront déposées selon nos sources incessamment par les activistes et anciens opposants qui disent avoir subi notamment des tortures sur Kalev Moutonde.
Patient Ligaudy, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Alain. Alain, on vous souhaite une très bonne journée à Bukavu. On va parler football à présent, football et gros sous. Bonjour Hubert.
Bonjour Anne, bonjour à tout le monde.
Quelles étaient vos questions?
Oui, Manchester City a été exclu des compétitions européennes comme la Ligue des Champions pour les deux prochaines saisons par l'UEFA. Et le club a fait appel à cette décision. Alors, cet appel a-t-il les chances d'aboutir?
Alors, pour vous répondre, allez-y, pardon, vous aviez d'autres questions, on vous écoute.
Et si l'exclusion est maintenue, quelles pourraient être les conséquences sur le club et les joueurs? Enfin, aussi visé par une enquête pour le non-respect du fair play financier, l'année dernière, le PSG doit-il s'inquiéter de cette décision?
Alors, le club Manchester City a déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision, qu'il condamne donc à 2 ans de suspension, 30 millions d'euros d'amende. 2 ans de suspension, ça veut dire notamment pas de Ligue des Champions. Cédric de Oliveira du service des sports de RFI est avec nous, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Hubert.
On peut peut-être commencer par rappeler ce qui s'est passé. Que reproche l'UEFA au club anglais ?
Alors, selon l'instance, City ne respecte pas le fair play financier. Alors, le fair play financier, c'est un mécanisme de régulation dont le but est d'empêcher les clubs européens de dépenser plus qu'ils ne gagnent pour éviter une sorte de dopage financier, en fait. Cette sanction, elle ne vient pas de nulle part. Ça fait un petit moment que le club est dans le viseur de l'UEFA qui a lancé une enquête l'an dernier après les révélations des Football Leaks. City contourne les règles du fair play financier depuis plusieurs années par plusieurs stratagèmes. Par exemple, le fait de surévaluer ses revenus artificiellement en provenance de ses différents partenaires, ou encore de confier les dépenses du club à des sociétés parallèles financées par le cheikh Mansour lui-même, qui est propriétaire émirati du club de Manchester City. Donc en fait, vous dépensez de l'argent que vous récupérez automatiquement. Et en 2014, les Mancuniens avaient bénéficié de la mansuétude de l'UEFA qui avait réduit leur amende suite à des premières infractions constatées. Mais après les révélations des Football Leaks, eh bien l'instance n'avait cette fois pas d'autre choix que de sévir.
Alors Manchester City va donc faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. C'est le début d'une nouvelle bataille judiciaire dont l'issue est quand même assez indécise, Cédric.
Ouais, en tout cas, elle risque de durer très longtemps. La première chose, c'est que le TAS devrait suspendre la sanction en attendant sa décision sur le fond de l'appel. Donc il se pourrait bien, selon le calendrier judiciaire, que City puisse tout de même participer aux Coupes d'Europe la saison prochaine. Sachant que ça ne concerne pas non plus la saison actuelle. Les Mancuniens sont toujours engagés en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Ils joueront d'ailleurs la semaine prochaine leur 8e de finale aller. Après, sur le fond de l'affaire, le club va devoir surtout prouver qu'il n'a pas tenté de contourner ces fameuses règles du fair play financier. Si ces faits sont confirmés, il s'agira d'une fraude caractérisée.
En tout cas, si cette sanction est confirmée, comme nous le demandait Hubert, il risque d'y avoir quand même beaucoup de changements pour le club.
Déjà, il va falloir payer l'amende de 30 millions d'euros réclamée par l'UEFA. Et puis, City ne pourra plus bénéficier des importants revenus qui dépendent de la Ligue des Champions à laquelle il participe depuis 9 ans désormais, la Ligue des Champions, qui est la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde. Les plus grands joueurs veulent y participer. Alors en plus des difficultés financières que risque de rencontrer le club mancunien, ce sera difficile de retenir ses stars. On pense au Belge Kevin De Bruyne, l'Anglais Raheem Sterling ou encore l'Algérien Riyad Mahrez. Et puis aussi l'entraîneur bien sûr, l'Espagnol Pep Guardiola, qui est sous contrat jusqu'en 2021. Pas sûr qu'il ait envie de rester lui non plus sans la Ligue des Champions.
Alors Manchester City n'est pas le seul club dans le viseur. Comme nous le rappelait Hubert, notre auditeur, le PSG aussi a été visé par une enquête sur le fair play financier l'année dernière. Est-ce que le club parisien doit aussi commencer à s'inquiéter ?
Paris a été visé effectivement, mais les poursuites ont été abandonnées, en tout cas pour le moment. Le club parisien a limité ses dépenses lors du dernier marché des transferts. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, il a généré plus d'argent que ses dépenses. C'était une manière un petit peu de montrer patte blanche devant l'UEFA. En tout cas, ces sanctions contre Manchester City montrent que l'instance aborde le problème avec une nouvelle attitude. Au prochain écart, le PSG pourrait lui aussi être puni.
Cédric de Oliveira du service des sports, merci d'être venu répondre aux questions d'Hubert. Hubert, on vous souhaite une très bonne journée. Anne Jamena, n'hésitez pas à nous appeler vous aussi, à nous écrire si vous avez des questions sur l'actualité. N'oubliez pas de laisser un numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Vous pouvez nous joindre au 33 9 693 693 70 et sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Vous nous appelez, puis les journalistes de RFI, des experts, viennent répondre à vos questions. C'est ce qu'a fait Victor, qui nous a écrit. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Victor, vous nous appelez de Tchang, au Cameroun, et vous vouliez nous parler des élections qui ont eu lieu dans le pays il y a 10 jours.
Oui, Anne. Après le double scrutin des législatives et du municipal du 9 février dernier, 40 requêtes ont été introduites par plusieurs mouvements politiques pour l'annulation totale ou partielle de l'élection. Alors, quelles sont les irrégularités relevées par ces partis politiques ? Cette manœuvre a-t-elle des chances d'aboutir ?
Alors, Polycarpe Essomba vous répond, correspondant de RFI au Cameroun. Bonjour Polycarpe.
Bonjour.
De quelles irrégularités parle-t-on ? Sur quoi portent ces requêtes déposées par les différents partis ?
Ben oui, en effet, déjà une dizaine de partis politiques ont introduit des requêtes auprès du Conseil constitutionnel au fin de l'annulation partielle ou totale des législatives. Il s'agit entre autres du SDF, de l'ANDP, de l'UDP et même du RDPC, le parti au pouvoir. Les requérants font leurs arguments sur un ensemble de techniques de fraude qu'ils auraient relevées des actes de corruption et même des intimidations. Pour être un peu plus précis, l'ANDP, par exemple, sollicite l'annulation des législatives dans la circonscription du Donga-Mantung, c'est dans la région de l'Ouest. Ce parti soutient que ces bulletins étaient pour la plupart absents des bureaux de vote sans aucune notification judiciaire. Le BRIC, un autre parti politique, demande l'annulation totale dans la circonscription de la Mézam Nord, dans le Nord-Ouest anglophone. Ce parti souligne que dans la nuit du 8 au 9 février, tout le matériel de vote destiné à la ville de Bafout avait été incendié et que, tétanisé par la recrudescence de la violence dans cette région que l'on sent en crise, la population n'a pas osé sortir de chez elle pour aller voter. Le RDPC, pour sa part, demande l'annulation partielle des législatives dans un certain nombre d'arrondissements dans la ville de Ngaoundéré, c'est dans l'Adamawa, dans les arrondissements de Ngaoundéré 1er et Ngaoundéré 2e et Ngaoundéré 3e. Le parti indique que l'UNDP, un de ses concurrents, n'y a pas respecté leur limite de clôture de la campagne électorale.
Voilà donc un certain nombre de requêtes déposées. Quelles sont les chances que ces procédures aboutissent, Polycarpe ?
Alors, quant à savoir si ces requêtes ont des chances d'aboutir, difficile de répondre a priori, mais si l'on s'en tient aux élections antérieures et aux pratiques en la matière au niveau du Conseil constitutionnel, on ne peut que constater que la règle a souvent été au rejet de la plupart des requêtes, à quelques exceptions près.
Victor, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous aviez une autre question, je crois.
Oui. Pourquoi le parti au pouvoir, le RDPC, a-t-il déposé les requêtes auprès du Conseil constitutionnel alors qu'a priori ce n'est pas dans son intérêt? Quelle est la teneur de son requête?
Alors, c'est vrai, Polycarpe Essomba, on peut se demander pourquoi le parti au pouvoir, le RDPC, a aussi déposé des requêtes alors qu'il semble disposer d'une avance assez confortable selon les premières tendances.
Oui, ce qu'il faut déjà relever, c'est que ce sont des élections locales avec des candidats qui sont certes engagés sous la bannière d'un parti, mais qui jouent pour l'essentiel gros, personnellement, dans chacune des circonscriptions où ils compétissent. Ces candidats sont donc tout à fait dans leur droit de solliciter le Conseil constitutionnel s'ils estiment que dans leur localité, des irrégularités ont été enregistrées. En plus, pour le RDPC, de manière générale, c'est peut-être aussi le moyen de montrer que les faits de fraude ou de tentatives de fraude qui lui sont souvent imputés assez souvent sont aussi l'apanage des partis de l'opposition, que ce parti, quoique au pouvoir, peut en être lui aussi victime. Et en fin de compte, et de mon point de vue, le RDPC, à travers ses requêtes, voudrait passer le message qu'il n'est pas inféodé à l'administration et à ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections, et aussi donner plus de sens aux victoires enregistrées dans les autres circonscriptions à travers le pays.
Polycarpe Essomba, merci d'avoir été en direct de Yaoundé pour parler donc de ces élections législatives et municipales qui ont eu lieu le 29 février dernier au Cameroun. Les résultats sont en train d'être recensés, les votes sont en train d'être recensés et les résultats devraient être communiqués le 29 février au plus tard. Merci beaucoup et bonne journée à Victor qui nous appelait de Tchang dans l'est du Cameroun. Je prends un petit moment pour vous rappeler le thème de notre débat du jour. Donc, ce sera dans un peu plus d'un quart d'heure. Maintenant, quel rôle pour les États-Unis au Sahel? La question se pose depuis que Washington a annoncé son intention de retirer ses troupes de la région. On attendait des réponses lors de la visite de Mike Pompeo en Afrique ces derniers jours. Ça n'a pas été le cas. Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État américain. Il s'est gardé de prendre le moindre engagement. D'ailleurs, il n'a fait que survoler la région. Il ne s'y est pas arrêté. Il n'a pas fait d'escale dans les pays directement touchés par les attaques djihadistes. Mike Pompeo, en fait, s'est contenté de promettre que les États-Unis feraient ce qu'il faut pour la sécurité au Sahel. Et on a envie de vous entendre sur le sujet. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous attendez des Américains dans cette région. Dernière question de la matinée. Bonjour Amadou.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute.
Alors, la République en marche a choisi Agnès Buzyn en fait dimanche passé pour remplacer Benjamin Griveaux comme tête de liste pour la course à la mairie de Paris. Anne, comment expliquer ce choix porté sur Agnès Buzyn, sachant qu'elle avait publiquement annoncé la semaine dernière qu'elle n'était pas intéressée?
Valérie Gass nous a rejoint, chef adjointe du service politique ici à RFI. Bonjour Valérie.
Bonjour Anne, bonjour Amadou.
C'est vrai que le nom d'Agnès Buzyn avait déjà circulé jusqu'au dernier moment où presque elle a expliqué qu'elle n'avait pas le temps entre ses dossiers au ministère de la Santé plus la crise du coronavirus. Bref, ça ne semblait pas possible du tout. Et puis finalement, si. Pourquoi elle ?
Les charmes de la politique. Eh bien, c'est parce que c'était la candidate de remplacement qui cochait le plus de cases. Un politologue que j'interrogeais dimanche me disait qu'il n'y avait pas de bon choix pour reprendre le flambeau à Paris dans une situation de crise comme celle qu'a provoqué le retrait de Benjamin Griveaux. Et à un mois du premier tour du scrutin, il fallait trouver quelqu'un de connu, identifiable immédiatement et qui puisse entrer directement en concurrence avec Anne Hidalgo et Rachida Dati, deux femmes politiques de premier plan qui sont, rappelons-le, en tête dans les sondages. Envoyer une ministre au combat, c'était donc un moyen de jouer dans la même catégorie qu'elle. Les autres candidats qui avaient fait part de leur disponibilité, comme le député Mounir Majoubi ou le sénateur Julien Bargeton, ne pouvaient pas rivaliser.
Alors il fallait aussi choisir un profil qui puisse faire l'affaire en interne à La République En Marche.
Tout à fait, et aussi dans l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux où régnait la stupeur depuis vendredi dernier. Agnès Buzyn avait donc les atouts pour rassurer, c'est une figure exemplaire de la Macronie originelle. Celle de ces personnalités issues de la société civile qu'Emmanuel Macron est allé chercher pour leurs compétences. Elle a une image de sérieux et de bienveillance. Elle est calme, sans agressivité, un peu l'antithèse de Benjamin Griveaux. Et c'est ce qui a été jugé adapté à la situation par le président de la République, car c'est lui, il faut bien dire, qui a fait pencher la balance et a convaincu Agnès Buzyn de se lancer dans cette bataille électorale dans laquelle, Amadou a raison, elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas aller. C'est toujours Emmanuel Macron qui tranche, La République En Marche. Mais la plupart des cadres du parti essayaient aussi de convaincre Agnès Buzyn depuis vendredi, car certains, comme Stanislas Guérini, le dirigeant du mouvement présidentiel, n'avaient pas vraiment envie d'y aller eux-mêmes. Il faut le dire, c'est un peu mission impossible ce remplacement au pied levé. C'est une grosse prise de risque. Et ça, les militants en sont conscients. J'en ai rencontré certains quand Agnès Buzyn a fait sa première sortie publique de candidate à la mairie de Paris dimanche soir. Et on sentait le soulagement chez tout le monde. Les gens disaient « Elle a du courage, elle va créer une nouvelle dynamique, elle va rassembler, bref, elle va faire tout ce que Benjamin Griveaux ne réussissait pas à faire. » Du coup, il se prenait à croire encore que cette élection n'était pas perdue.
Amadou, vous aviez d'autres questions à propos de ces municipales, ces municipales en France, mais là, en l'occurrence, à Paris?
Oui, bien sûr, Anne. À un mois des élections, en fait, quelles sont ses chances de l'emporter? Et un accord avec Cédric Villani est-il envisageable?
Changer de candidat un mois avant l'élection, c'est vrai que ça peut sembler un peu risqué, d'autant plus que Benjamin Griveaux ne semblait pas vraiment bien engagé. Est-ce qu'Agnès Buzyn a des chances de gagner, par exemple, peut-être, comme le disait Amadou, en s'alliant avec le dissident de La République En Marche, Cédric Villani?
C'est difficile à dire, mais en fait, Agnès Buzyn, malgré les circonstances, n'a peut-être pas moins de chances que Benjamin Griveaux, qui ne faisait, comme vous le disiez, que baisser dans les sondages et qui n'a jamais réussi à enclencher une vraie dynamique en sa faveur depuis son entrée en campagne. L'un des atouts d'Agnès Buzyn, c'est ce que je viens de dire, son profil, qui n'a rien à voir avec celui de Benjamin Griveaux. Elle est plus sociale, plus douce, elle peut donc peut-être faire revenir certains électeurs d'En Marche que Benjamin Griveaux avait fait fuir. Son autre carte maîtresse, c'est son lien avec le président et sa carte de visite de ministre, mais c'est aussi son handicap, car ça donne encore plus un enjeu national à ce scrutin déjà très symbolique. Agnès Buzyn, elle a dit dès sa désignation qu'elle était candidate pour gagner. Bon, c'est de bonne guerre, on se présente rarement en disant qu'on sait qu'on va perdre, mais elle a quand même beaucoup de chemin à faire pour y parvenir. Elle qui ne s'est jamais présentée à une élection, qui n'a jamais fait campagne, qui commence par une municipale à Paris, une élection compliquée qui se joue dans les arrondissements, et c'est pour ça qu'un accord avec le dissident Cédric Villani, Amadou a raison de poser cette question, et cet accord serait important. Des contacts ont eu lieu, Cédric Villani a mis des conditions, notamment un accord pour le second tour avec les écologistes. C'est compliqué à accepter pour Agnès Buzyn, qui doit trouver un équilibre pour capter des électeurs à droite et à gauche, avec un objectif, montrer qu'elle est la mieux placée, qu'elle est mieux placée en tout cas que Rachida Dati pour battre Anne Hidalgo, la maire sortante, et qu'elle peut rassembler plus que Rachida Dati.
Merci beaucoup Valérie Gass d'être venue répondre aux questions d'Amadou. Très bonne journée à tous les deux. Merci à vous de nous écouter. Restez sur RFI. Dans quelques secondes, toute l'actualité africaine. Nous irons notamment au Togo avant la présidentielle qui est prévue dimanche. Et puis juste après, nous lancerons le débat sur le rôle des États-Unis pour la sécurité au Sahel. La question se pose et il faut bien reconnaître qu'on n'y voit pas vraiment plus clair après la visite de Mike Pompeo ces derniers jours dans la région.